Aujourd'hui, la masterclass de Valérie Jouve avec Manu Farine.
Bonjour à tous, bonjour à vous, merci d'être là, bienvenue. Aujourd'hui, une masterclass placée donc sous le signe de l'image, toujours avec la photographe et vidéaste Valérie Jouve, que je suis ravie d'accueillir ici en public dans le petit auditorium de la Bibliothèque nationale de France, partenaire donc de cette collection d'entretiens menée par France Culture, masterclass dont le principe, je le rappelle, demeure donc l'examen de la fabrique de l'œuvre. Et la vôtre, Valérie Jouve, fait ses premiers pas, disons, à la toute fin des années 80, du côté périurbain de Saint-Étienne, où vous avez grandi et où vous retournez, on y reviendra, en tout cas ces jours-ci. Cette œuvre, elle passe d'abord par le terrain, celui de l'anthropologie et de la sociologie, avant d'opter justement pour la photographie, puis la vidéo. Une photographie qui balance dans un premier temps entre documentaire et une certaine théâtralité, et qui, dites-vous, cherche une certaine intensité du monde vivant. Ça, c'est depuis le départ, et c'est encore, peut-être même encore plus vivement le cas aujourd'hui. Ça passe dans un premier temps par l'inscription de figures, de corps, de personnages dans la ville, par leur façon d'habiter l'espace et d'être traversé par lui, dans votre objectif des hommes, des femmes mis en scène, saisis dans leur mouvement comme pour prendre la mesure de leur inscription dans l'espace. Et puis, un travail qui procède par série, ou plutôt par corpus, qui est un terme que vous lui préférez, mené sur plusieurs années parfois, qui progressivement se font de plus en plus, disons, contemplative, on y reviendra, puisque désormais ça passe aussi par façades, murs, rues, des arbres également, et puis qui place au cœur de votre pratique la question du montage. Premier terrain donc Valérie Jouve, puisque je l'évoquais en commençant, et avant d'en passer par l'école de photographie d'Arles, l'anthropologie, la sociologie, à ce moment-là, quand vous commencez, de quel ordre est votre rapport à la photographie? Et quand je dis rapport à la photographie, j'entends peut-être un rapport technique, mais aussi un rapport à l'acte photographique à proprement parler.
Alors, je pourrais pas dire que la photographie est arrivée à un moment de l'enfance ou de l'adolescence. Le rapport à l'image était pas du tout présent chez moi. J'étais pas du tout dans une famille qui m'emmenait voir des images ou par contre je dirais que enfant j'étais très intéressée à observer observer les gens dans leur comportement, de savoir comment une personne peut parler très peu, comment une personne qui n'a rien à dire peut parler très fort et par ce geste même prend de l'espace et du coup prend la place. Et que ces choses-là, enfant, m'impressionnaient beaucoup. Contrairement à aujourd'hui, j'étais une enfant très peu volubile, je parlais très peu, et je contemplais beaucoup, j'observais. Et que, à un moment donné, quand je suis rentrée à l'université pour faire de la sociologie, je dirais presque que c'était par défaut. Défaut d'une envie de participer de ce monde. Il y avait quelque chose dans ce monde qui ne m'allait pas. Et la sociologie, peut-être, était une des matières qu'on n'enseignait pas à l'école. c'est aussi un professeur de philosophie qui a dû quand même déceler cet intérêt des groupes humains et comment ces groupes s'organisaient. Et qui m'a suggéré, il m'a dit, mais tu devrais aller voir vers la sociologie. Donc, quand je suis rentrée à l'université, j'étais pas du tout dans le monde de l'image. Et une des premières UV qui m'a vraiment beaucoup aidée, c'est une UV qui s'appelait la sociologie de la famille. Donc déjà, où j'avais quelques clés pour grandir et me sortir peut-être d'une histoire qui m'empêchait un peu de prendre des ailes. Et c'est une époque où j'ai réappris beaucoup. J'ai fait du théâtre, j'ai fait du chant, je suis sortie de moi un peu. Et à un moment donné, alors c'est quelque chose de très bête, et comment chaque individu dans la vie a une expérience importante et qui l'emmène beaucoup plus loin. Déjà, en sociologie, j'avais remarqué que c'était quand même une discipline qui était beaucoup tournée vers le chiffrement, le rapport aux chiffres. Et à un moment donné, il y avait un ciné-club qui a passé Les Maîtres Fous de Jean Rouch. Et là, je suis ressortie avec vraiment, comment je dirais, une certitude. C'est que ce vivant-là était bien capté, était et analysé beaucoup de choses, mais en même temps, sans distanciation, sans une analyse qui, avec les mots, pouvait devenir figée, c'est-à-dire que d'un coup, on était projeté dans un monde, qu'on pouvait le sentir, ce monde, qu'on pouvait lui trouver une certaine familiarité, et en même temps, sans en sortant, comme dirait Christian Milovanov, il y a un côté formidable, mais il y a quelque chose qui vous prend aux tripes. Et cette puissance-là de l'image a été vraiment un coup de foudre, quoi.
Quand vous dites qu'il y avait quelque chose dans ce monde qui ne vous convenait pas, Valérie Jouve, vous diriez que, au fond, l'image ou la pratique photographique, c'est ce qui vous aura permis de le dire, de le montrer, de le représenter, de le formaliser, ou peut-être davantage de le réparer ou de l'apaiser.
Enfin, je veux dire, ça peut être les deux choses. Enfin, on n'est pas. Quand j'ai commencé la photographie, je me suis pas posé la question de savoir si je réparais quelque chose. En tout cas, la photographie m'aidait à poser un regard dessus. Pas seulement une réflexion, un regard au sens où la réflexion est avec, mais en même temps, on fabrique quelque chose d'autre. Enfin, mon rapport à la photographie a toujours été lié quand même à cette possibilité de d'être dans le monde et de d'y participer. Donc, je l'ai réparé autant que je pouvais, d'une certaine manière. Mais ce rapport à la photographie, il est venu vraiment à un moment, comment je dirais, je suis une fille de garagiste, de mécanicien. La photographie, c'est aussi un rapport à la mécanique. Donc c'est quelque chose qui m'intéressait. C'est cette chose qui fait que on vient juste recueillir quelque chose, qu'on organise, bien évidemment, qui est malléable, je veux dire, ce rapport à la prise de position ou positionnement ou fait qu'on fait une image ou une autre. On a une sensibilité, on met le doigt sur quelque chose de plus particulier que l'image seulement documentaire. J'avais ce besoin de construire dans la visibilité du monde des propositions, quoi. Mais ce rapport à la mécanique a, je crois, été aussi quelque chose qui a fait que j'ai aimé un appareil photo, j'ai aimé comprendre comment cet appareil fonctionnait, j'ai aimé cette idée aussi que, quelque part, au moment où on déclenche, eh ben, une lumière vient se poser sur un film. C'est une relation qui, nous, on appuie, mais toute l'alchimie est quelque chose qui se fait par la lumière, quoi. Et c'est en même temps... une chose qui m'a passionnée, c'est en même temps, je dirais, la relation difficile que je peux avoir à la photographie, à savoir que un appareil ne sera jamais mon œil. Donc, à un moment donné, ça a toujours été un outil avec lequel, d'une certaine manière, je me bats pour essayer de transposer à l'image quelque chose que j'ai regardé. Mais quand on regarde, on va au-delà du seul nerf optique, quoi, qui est relié à un cerveau. On a des odeurs, on entend des sons. Donc comment une image fixe peut tenir quelque chose avec peu de tout ce qu'on a pu ressentir, quoi. Donc et je dirais que là, ce rapport au montage est venu aussi dans cette nécessité.
Qu'est-ce qu'il en reste, Valérie Jouve, justement, de ce rapport mécanique, physique à l'appareil photographique que vous décriviez, hein, qui est donc celui de l'enfance, d'une certaine façon? Est-ce qu'il en reste quelque chose? Et si on parle mécanique, on peut aussi éventuellement parler technique. Et je me demandais si en 30 ans, à peu près, hein, peu près, en 30 ans, ce rapport-là, et à la mécanique et à la technique, avait plus bougé. Parce que je crois que vous travaillez un peu toujours de la même manière.
Oui. Alors ça, c'est une histoire. Donc, pour la petite anecdote, ce qui est très drôle, c'est que j'ai quand même appris à l'âge de 38 ans, donc assez tard, que mon père voulait devenir photographe. C'est une chose qui n'est jamais apparue dans la famille, puisque d'une certaine manière, son grand-père était garagiste et que ma grand-mère a décidé que la photographie ou la mécanique, c'était à peu près la même chose. Donc c'est une chose un peu qui m'est tombée sur la figure. Enfin, je veux dire, dans les origines de la photographie, on retrouve des liens petit à petit très très étranges, quoi. Enfin, il y a beaucoup de petits... Maintenant, le rapport à la mécanique, j'ai commencé bien évidemment au Nikon, enfin Nikormat, je veux dire au 24-36. Bon, assez rapidement, le moyen format m'a intéressé pour pas seulement enfin, ce rapport au format et à la taille du négatif, mais aussi la distance qu'on avait à l'appareil. On n'avait pas le viseur collé à l'œil. Et j'avais trouvé un vieil appareil très peu cher qui s'appelait le Kowa, et qui était une réplique assez belle et très fidèle de la Solblad version russe. Donc mon Kowa a été un peu l'appareil que j'ai utilisé plusieurs années, jusqu'au moment où je me suis dit qu'il fallait que je rencontre quelqu'un qui m'apprenne un peu plus sur une sorte d'apprentissage dans le lien à la photographie. Et j'avais trouvé un petit studio de publicité au Terreau, puisque j'étais à l'université à Lyon. Et je proposais donc à ce monsieur de lui trouver des commandes, et en échange, il m'apprenait la photographie. Et là, j'ai découvert la chambre photographique, donc qui a été un outil très important pour moi. Pas seulement pour cette distance qu'on a, mais aussi pour toutes ces capacités à reconstruire ou à remettre à son œil, je dirais presque, des notions de perspective ou des notions de plan. Et du coup, j'ai commencé la chambre grand format avant même d'arriver à Arles. Et j'ai continué à travailler avec cet outil depuis aujourd'hui. J'ai fait quelques tentatives avec un peu le numérique il y a 5-6 ans. Et que, comment je dirais, quand on est en numérique aujourd'hui, à moins de pouvoir acheter un dos pour la chambre qui coûte des fortunes, dire on revient au 24-36, je dirais, à tout ce que je n'aime pas dans le 24-36, qui est vraiment du prélèvement, et que j'ai vraiment le non seulement le besoin, mais aussi le plaisir de vraiment prendre le temps de retravailler, de composer une image et de la mettre à mon œil. Oui, je ne sais pas le dire autrement.
Et c'est ce qui ne vous convenait pas, au final, dans la sociologie, l'anthropologie. Au fond, je me disais, peut-être la sociologie, l'anthropologie pouvaient presque être du côté du 24-36, justement, quelque chose un petit peu comme ça. Et au fond, qu'est-ce que la photographie pouvait, que ne pouvait pas la sociologie et l'anthropologie ?
Je dirais une chose, je pense pas que ça ait un lien entre la photographie, la sociologie, l'anthropologie. La sociologie, déjà, j'avais une certaine aversion assez rapidement sur ce rapport aux chiffres et au fait que à un moment donné, la sociologie a pu sortir une espèce de notion comme la deuxième génération de l'immigration. Moi, j'ai grandi dans une cité qui s'appelle Firminiver. J'avais des amis qui étaient de parents algériens, qui étaient nés comme moi en France, et d'un coup, qui devenaient une deuxième génération de l'immigration. Donc, la sociologie m'a assez rebutée.
Qui est un terrain sur lequel vous avez travaillé, d'ailleurs, justement, sur cette question-là.
Ça, en sociologie, j'avais fait un mémoire, où je m'aidais de la photographie. Et on m'avait fait le reproche de ces photographies, puisqu'effectivement, je veux dire, ces photographies sortaient du cadre de mon mémoire, d'une certaine manière, puisque c'était que des singularités. Donc, à un moment donné, la photographie venait déjouer toute l'analyse que je faisais de ce terme. Et l'anthropologie... alors, c'est aussi une histoire d'université. Hein. J'étais à Lyon-Bron, qui était une faculté assez... comment je dirais, je dirais pas traditionnaliste, parce que c'était assez tôt pour l'anthropologie pour dire qu'il y avait déjà des traditions, mais en tout cas c'était une, je veux dire, une faculté dans laquelle, par exemple, on ne parlait pas de Bourdieu. C'était en 81, 82, donc à un moment donné, ne pas parler de Bourdieu déjà dans les années 80, c'était un peu fort de café. Après l'anthropologie, je dirais que je m'en suis détachée. Après des lectures, j'ai été passionnée par les lectures de Michel Foucault. Ça a été vraiment une époque où j'ai découvert ce philosophe. Et d'une certaine manière, s'est posé tout de suite la question qui a besoin des anthropologues ? Je veux dire, si à un moment donné, on veut devenir anthropologue, je veux dire, il faut gagner sa vie. Et qui demande à des anthropologues de faire un travail ? Donc, j'étais pas dans cette idée de la recherche ou de... J'étais plutôt quelqu'un d'assez en colère. Et du coup, pour moi, l'anthropologie était un outil pour avancer, pour développer d'autres possibilités ou possibles de vivre ensemble, quoi. Ou de... Et que, à un moment donné, enfin, c'est toujours au quotidien. Les choses ne sont pas si, comment je dirais, linéaires. Enfin, il n'y a pas une chose qui vient après l'autre. On vit, quoi. Donc, c'était un moment où je faisais beaucoup de photographies. Je veux dire, je faisais en même temps ce travail avec le photographe et je suivais les cours à la fac. Et il y a un moment, j'ai choisi. Je dirais que j'avais commencé à regarder des écoles. Donc, j'avais été voir l'école des Beaux-Arts à Lyon, l'école des Beaux-Arts à Saint-Étienne. Donc, j'avais bien compris que d'une certaine manière, aux Beaux-Arts, soit on rentrait en communication, soit on faisait de la photographie d'art, mais ça pouvait être ou du nu ou de l'intervention, enfin, à un moment donné, de la performance, quoi. Ce qui n'était pas du tout mon objet. Et puis, il y a quelqu'un qui était à Saint-Étienne, que je connaissais, qui s'appelle Jean-Louis Chelkoff, qui était quelqu'un que je voyais un peu et qui est la première personne à me parler de Arles. Et quand j'ai commencé à me renseigner sur Arles, c'est vrai qu'il y a une figure, un enseignant qui était à Arles, qui m'intéressait beaucoup. Il est passé juste avant moi, Christian Milovanov, et qui était sociologue, quoi. Enfin, qui avait été sociologue. Et là, d'un coup, j'ai trouvé un cadre pour avancer dans mon travail. C'est qu'à un moment donné, j'ai vraiment trouvé une école qui pouvait accompagner ce début de travail, quoi. Arles, c'était une école qui se proposait de penser avec l'image. C'était une école de pensée avant d'être une école technique. Donc, en plus, c'était une école qui était nourrie de beaucoup de mouvements de photographie. Que ce soit, c'est là-bas que j'ai quand même découvert tous les... Même si j'adorais Avedon, au sens de mon petit coin à Lyon, je veux dire, c'est là que j'ai découvert tous les grands photographes des années 50, des Robert Frank, des Walker Evans... Ouija aussi, enfin il y en aurait, mais il y avait aussi, c'était une école qui se proposait, voilà, de laisser l'école, c'était une école qui appartenait aux étudiants, c'était une école qui restait ouverte jusqu'à minuit, il y avait une bibliothèque qui était une des plus grandes bibliothèques de photographie d'Europe à l'époque, il y avait des labos ouverts jusqu'à minuit, il y avait du coup tout ce terrain d'expérimentation, quoi, et il y avait les étudiants, c'était vraiment, on cherchait tous.
Alors peut-être juste un petit point, parce qu'en fait, cette question, ce nœud-là, finalement, n'a pas pris tant de temps que ça, mais c'est sur la question du noir et blanc. Vous avez commencé par le noir et blanc avant de passer à la couleur, mais très très vite, assez rapidement. Et ce noir et blanc comme choix de départ, c'était un noir et blanc qui, pour vous, vous plaçait dans une certaine histoire, ou c'était un noir et blanc qui refusait la couleur ?
C'était un noir et blanc économique, je dirais. C'était simplement une jeune photographe qui essayait de faire des images et qui n'avait pas l'argent pour acheter.
Pas de méfiance à l'égard de la couleur.
Aucune méfiance. La seule chose, si, mais ça a été un peu plus tard. C'était pas au tout début. La couleur au tout début, je n'y pensais même pas. Mais à un moment donné, il me semblait que tous les photographes qui faisaient de la couleur mettaient en avant ce rapport à la couleur. Donc avec plutôt des couleurs assez, saturé ou des lumières très très fortes, et que c'était pas du tout mon univers. Mais le noir et blanc, surtout au bout d'un moment, je l'ai lâché d'une certaine manière par rapport à une sensation de nostalgie. Je dirais qu'aujourd'hui, quand je revois ces images que j'avais faites à Saint-Étienne, c'était pas tant une nostalgie qui venait de ma part, enfin de mon fait, mais plutôt une région qui était une région qui était née à l'époque industrielle et qui, dans les années 80, devenait presque, j'ai des images, on dirait début 20e siècle, quoi. Et c'est pas mon regard qui faisait ça, c'est que c'était une région qui gardait encore une trace très très forte de cette industrialisation, d'une culture industrielle, d'une culture ouvrière, et que du coup, les images rapportaient cette réalité-là. Mais à cette époque, c'est vrai que je me disais que c'est peut-être moi qui regardais les choses comme ça, et que le noir et blanc allait dans ce sens-là, et qu'il fallait absolument que je revienne vers une ville plus réaliste, d'une certaine manière, en sens où la ville est colorée. Et elle n'a pas obligatoirement beaucoup de couleurs. Le milieu urbain n'est pas saturé de couleurs. Donc, à un moment donné, quand j'ai compris cette chose-là, je veux dire, j'ai commencé à travailler la couleur et surtout le tirage des images pour, retrouver toujours, griser un peu les images. Alors, pour ajouter une petite chose là qui est assez jolie, parce que ça fait pas très longtemps qu'on me l'a dit, j'ai une amie qui habite toujours Firminy et qui me dit mais c'est drôle parce qu'en même temps que tu sois à New York, à Marseille, où on croise toujours cette lumière un peu grisée qu'on a vécue à Firminy, parce que moi quand j'étais petite, Firminy était vraiment une ville noire et je pense que la lumière était très chargée de particules encore, le charbon était partout quoi. Et alors ça, c'est une petite anecdote qui m'a frappée. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vient de ces images d'origine, je dirais, ou alors est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment que la couleur pour garder simplement ce qui est autour de nous, quoi. Je ne vous vois pas en noir et blanc. Donc... Et en même temps, comment faire en sorte que... Parce que la photographie, c'est aussi de la pellicule, et une pellicule qui aujourd'hui devient de plus en plus contrastée, parce qu'il y a des modes, parce qu'il y a des... Donc à un moment donné, comment on déjoue ce rapport au contraste qui n'est pas pour moi... qui ne porte pas le visible tel que moi je le vois ou tel que je le pense.
Alors, couleur un peu grisée, justement, Valérie Jouve, le corpus auquel on vous a longtemps identifié, alors on va y revenir un tout petit peu, il a longtemps identifié, que vous avez mené longuement, duquel vous vous éloignez un tout petit peu ces derniers temps, hein, c'est celui des personnages, c'est-à-dire une figure, un corps, hein, saisi dans son milieu urbain ou dans son milieu périurbain, qui sont... au fond, moins des portraits hein, que des images qui cadrent la manière dont le corps occupe l'espace, saisi dans un apparent mouvement, souvent à échelle 1, presque jamais, je crois jamais, ou presque jamais frontal, hein, en tout cas, c'est-à-dire de regarder en tout cas ni vous, ni le spectateur, un mouvement et une tension qui habitent l'espace et inversement. Et pour autant, ce n'est pas une photographie de l'instant, puisque ces images-là étaient des images, enfin, sont des images mises en scène, hein, sont des poses. Pourquoi fallait-il, dans un premier temps, je dis bien dans un premier temps, parce que cette chose-là va bouger un petit peu aussi, en passer par ce qui s'affirme malgré tout comme une forme de théâtralité?
Alors, il faut savoir qu'à ce moment-là, j'étais vraiment dans des recherches, que j'avais commencé avec Saint-Étienne, mais simplement dans ce rapport à comment un corps vient habiter une architecture. Donc les corps étaient à l'échelle de l'architecture, mais ça a été déjà des premières petites mises en scène, mais c'était des mises en scène très minimes, dans le sens où voilà, un bâtiment allait être détruit, donc toutes les fenêtres étaient closes, et en même temps je voulais mettre en avant ce fait que ce bâtiment était un bâtiment d'habitation. Un passant passait près de moi et je lui demandais simplement s'il pouvait monter, faire comme s'il ouvrait une porte. Donc la mise en scène n'était vraiment pas affirmée. Par contre, après, je me suis rendu compte en menant ces recherches que tous ces rapports d'échelle, hein, d'échelle des corps, d'échelle. Bon, entre-temps, j'avais quand même fait un grand voyage qui a été un voyage très important de toutes ces églises en Italie, des primitifs italiens, donc avant l'avènement un peu de la perspective. Comment, je veux dire, c'est aussi très souvent avec cette chambre, cette perspective que je viens ou casser ou amoindrir, en tout cas. Et quand j'ai été à Marseille, donc après Arles, je sentais qu'il fallait que je fasse un pas, je veux dire, à vraiment trouver la justesse de ces corps par rapport au corps des bâtiments. Vous parliez de corps, mais c'est aussi les façades où certaines des images parlent de corps, et c'est pas obligatoirement du rapport au corps humain. Mais là est venue, oui, pendant 2 ou 3 ans, vraiment une recherche à refaire des images, re-refaire des images avec les mêmes personnes. Dire quand même que le nom des personnages ne vient pas du tout de la construction des images, mais bien plus de la rencontre avec ces gens. C'est vraiment j'ai photographié des personnages. Donc ça, on pourra en parler parce que je rencontre actuellement des personnages arbres. Et je vois à quel point la notion de personnage est liée à des choses qui sont de comment le vivant cherche à tenir.
Quand vous dites des personnages arbres, hein, c'est parce que vous photographiez également depuis un certain temps, vous photographiez des arbres de la même manière, d'une certaine façon,
que vous avez photographié. Qui sont des arbres qui ont dû, d'une certaine manière, résister pour rester en vie. Des arbres qui sont mal placés et que d'un coup, quand on se promène en forêt, il y a un arbre qui prend présence, enfin qui a une présence beaucoup plus forte que ses congénères, je dirais. Donc c'est une période où j'ai eu un plaisir énorme à faire ces images. D'une certaine manière, je restais dans cette espèce de gymnastique pour arriver à déjouer les pièges de la photographie, aussi de ce prélèvement objectif. Comme j'ai dit souvent, c'est que je suis très objective quand je prends les personnages. Quand on me disait que je ne faisais que des contre-plongées, je veux dire, c'est simplement que je fais 1m57 et que je prenais des gens qui faisaient 1m70 et qu'à un moment donné, il était hors de question dans cette image, en tout cas, puisque c'était vraiment un corps à corps. Je suis assez près des corps quand je les prends en photographie, avec un outil aussi lourd. On ne pouvait pas jouer l'instantané. Enfin, il y avait vraiment les images qui ont réussi, c'est aussi vraiment la capacité des gens en face de moi à sortir du souci de son image pour arriver à construire l'image avec moi. Donc toutes les images que j'ai initiées avec des gens n'ont pas obligatoirement donné des images que j'ai gardées. Après, le problème des personnages, parce que cette gymnastique et ce rapport au plan américain qui avait déjà été fait par Cindy Sherman, j'allais dire Diane Arbus, enfin qui a été aussi fait par Diane Arbus, mais à un moment donné, c'était pour une autre raison qui était que sans sol, je veux dire, on retrouve les plans. Ce qui fait perspective, c'est des points de fuite. Les points de fuite, c'est quand même aussi lié à des ordonnancements au sol. Donc, je faisais attention à un moment donné à ne pas à prendre des plans qui se succédaient. Donc, les personnages, c'est aussi cette construction-là. Maintenant, tout ça était dans mon atelier, seul, hein, et j'en avais fait pas mal. Et le problème s'est posé à partir du moment où j'ai commencé à montrer mon travail, puisque c'est ces premières images effectivement plus spectaculaires qui ont été vraiment mises sur...
C'est comme ça qu'on vous a identifié.
Voilà, mais en même temps, avec ce corpus-là, on fait des choses un peu vite, parce que quand on fait une première ou une deuxième exposition et qu'on se voit titrer en première page dans Le Monde la nouvelle photographie objective, enfin, il y a un moment où il y a une espèce d'inconscience des médias à poser quelqu'un qui n'est pas du tout prêt à être à cette place-là. J'étais rien de, de tout ça, et qu'à un moment donné, ces personnages m'ont mis dans une place qui était très inconfortable, parce que moi j'ai commencé les personnages avec les façades, avec beaucoup d'autres images, des paysages urbains qui étaient vraiment, alors là du coup, étendre un territoire et voir comment dans un territoire on a une lecture d'une histoire, quoi. Donc j'ai ramé quand même beaucoup d'années à faire revenir les autres images, donc il y a eu des période où j'ai arrêté les personnages. Il y a d'ailleurs deux que je tire spécialement pour Saint-Étienne de cette période-là, mais que j'avais pas tiré parce que j'en pouvais plus. Donc, à un moment donné aussi, quand j'ai repris les personnages aujourd'hui, c'est pas du tout, ils sont pas du tout de même nature. Ce sont des corps qui sont plutôt à l'arrêt, qui sont pas en mouvement, qui posent pour une image. Bon, déjà, ne pas demander aux gens d'être dans des attitudes, parce que c'est vraiment toute une reconstruction. L'image, et c'est là où j'ai pu voir à quel point une image est très fausse, c'est-à-dire que quand vous voyez quelqu'un en train de poser devant moi, ça ne peut pas faire réaliste, ça n'est pas vrai, quoi. Et à l'image, ça sort, parce qu'il y a cette fameuse perspective qui aplatit les rapports à l'espace, c'est-à-dire quand un bras se décolle du corps pour être dans un mouvement, je veux dire, il amplifie ce mouvement, que s'il est dans un mouvement réel. Donc il y avait tout ce jeu-là qui me passionnait, mais qu'à un moment donné j'ai laissé parce que ça empêchait le travail de se faire, parce que si les personnages sont vraiment la base du travail, dans cette espèce d'envie de tenir le vivant, enfin une sorte de puissance là qui se joue, c'était aussi pour être les passeurs d'autres images et d'un monde, et il y a des images qui montraient ce monde et que d'un coup on ne voyait pas les autres images, quoi. Donc ça n'avait plus de sens pour moi, mais j'ai mis très longtemps à remettre en ordre ce travail et à le replacer là où moi je le fais, et je dirais que ça fait seulement quelques années que je pense que des gens ont compris ce travail.
Alors, parler de personnages, et puis après on va arrêter avec eux, mais parler de personnages pour parler de ces corps, hein, de ces corps résistants, comme vous avez pu le dire, qu'est-ce que ça fait de vous que eux soient des personnages et non pas des modèles ou des sujets, mais des personnages ?
J'ai toujours eu la sensation, je veux dire, et ça alors depuis... je dirais mes observations enfantines. Il y a des corps comme ça qui il peut y avoir beaucoup de monde dans une pièce, et d'un coup un corps arrive et ce corps est vraiment a une présence. On peut appeler ça charismatique mais ce qui est drôle, c'est que dans les personnages, je me suis rendu compte, parce que j'ai pu rencontrer des personnages dans la rue. C'est-à-dire que on peut repérer ces choses-là dans la rue, et que je m'approchais des gens. Donc à Paris, ça n'a jamais marché, mais à Marseille, les gens pouvaient se laisser approcher pour est-ce que ça vous intéresse de construire une image avec moi ? Et ça a été des vraies aventures. C'est-à-dire que c'était du temps. C'était il y a eu une image, mais ça, c'est vraiment l'exception un peu qui a duré 2 ans. Le fameux rire de cette femme avec le chemisier, ça c'est un des best-of Jouve. Et avec Marie, on a travaillé vraiment cette image.
Donc il y a cette jeune femme qui se trouve devant un bâtiment de 3 quarts.
De vente de BMW.
Et qui éclate de rire, avec une
cette
force,
légèreté.
Une
donc c'était en même temps un petit hommage à une image que j'aime beaucoup de Winogrand, parce que dans le travail, il y a beaucoup de petites clins d'œil, de références, de choses qui me nourrissent. Et c'était cette légèreté, ce corps si puissant devant cette vitrine qui montre un monde qui est en même temps un peu confus, puisque c'est une vitrine qui fait un angle. Et on voit l'autre côté de la rue, donc il y a une espèce de petit rapport à un espace qu'on n'arrive pas à comprendre tout de suite. Et cette belle voiture blanche rutilante. Et Marie, à l'époque, était quelqu'un qui était ce qu'il est aujourd'hui au RSA, avec 3 enfants, mais qui était quelqu'un qui avait une nécessité de faire... elle faisait de la peinture, elle faisait un peu de photographie, et elle avait vraiment un potentiel énorme. dans le rapport au fait de, enfin, cette nécessité de créer, de faire, de participer de quelque chose qui invente, qui cherche, et tous ces gens, je veux dire, que ce soit Rabat, Marie, Josette, ou finalement, sont des gens qui ont toujours eu une vie, un peu comme cet arbre qui fait avec le courant d'air qui ne le porte pas à croître, ont toujours eu des vies très accidentées et très, mais avec toujours cette nécessité de rester libre et vivant. Donc je pense que dans le mot personnage, c'est la théâtralité, c'est alors quand je dis roman, le rapport romanesque, moi je pense beaucoup à Dostoïevski, qui est pour moi vraiment un maître de savoir créer les personnages, et qui sont effectivement toujours des gens qui sont un peu, qui décalent un peu du cadre normal, de la normalité qui a été vraiment quelque chose pour moi de très problématique pendant longtemps. Mais c'est à un moment donné ces gens-là pour moi qui vont aider la société à aller plus loin, quoi. C'est eux qui ouvrent les portes, parce que c'est eux qui sont obligés d'inventer les choses pour arriver à vivre avec un cadre qui ne leur convient pas. Donc les personnages, c'est ça. Et les personnages donnent à voir d'autres images. Et c'est au moment où les personnages donnent à voir les autres images, par exemple quand vous avez les sorties de bureau, ou les fumeurs, ou les façades de New York, et que vous avez on peut reprendre la même image, une Ikea avec la robe rose, ou cette femme qui rit, je veux dire, d'un coup, il y a une association de ces mondes-là. Je me rappelle de Jim Harrison, cet auteur américain, qui dit à un journaliste, vraiment en riant beaucoup, parce que vous croyez qu'il n'y aurait qu'un seul monde. Donc dans ce travail, il y a cette notion de ces différents mondes, et comment on peut cohabiter, coexister, et comment ça peut se nourrir. Donc ça a été vraiment, je dirais, un des leitmotifs du travail au tout début de mon travail, d'aller dans les villes, bien évidemment dans les villes où là, je veux dire, on s'est regroupé, les sociétés, les hommes se sont rassemblés, et à un moment donné, comment ces villes sont un terrain d'expérimentation, de réflexion pour moi, à savoir comment travailler ces interactions ou ces non interactions, je dirais, à ce moment-là mes accrochages, mes montages étaient vraiment des montages qui essayaient de retraduire ces différences forces et ces différents types d'énergie, et comment ça vient habiter un espace dans lequel le spectateur se promène, et comment d'un coup croire que l'image peut encore aujourd'hui sortir des cadres, quoi, sortir de et toucher quelqu'un, non seulement dans le rapport à la visibilité ou la lisibilité d'une image, mais plutôt physiquement. Comment j'ai cru et je crois encore que l'image peut avoir une interaction avec le spectateur très physique, et pas seulement dans un rapport à montrer expliquer mais faire sentir, quoi.
Cette question du rapport physique du spectateur, notamment lorsqu'il regarde une image, c'est quelque chose que vous précisez ou que vous intensifiez justement en utilisant, Valérie Jouve, le montage, parce qu'on n'en a pas parlé encore véritablement jusqu'ici, mais il y a aussi toute une partie du travail très importante qui vient donc après l'acte photographique, et qui est donc, enfin, bon, alors à l'intérieur de la photographie, parce que ça peut arriver aussi qu'il y ait montage, mais après l'acte photographique, et qui est donc l'accrochage, le montage. Parfois, oui, il peut vous arriver de superposer des photographies, de superposer une photographie à une toile collée sur un mur, plusieurs, en modifiant les formats, donc en mettant en place une sorte presque de petite narration ou de petit récit, en tout cas en multipliant les points de vue et en multipliant en tout cas les points de vue du spectateur. Donc c'est exactement ce que vous disiez.
Oui, le montage, il a été présent du début du travail. Ce travail, il s'est construit pour être travaillé entre les images, je dirais. Et plus ça va, plus je me rends compte à quel point j'ai mes boîtes avec tous les négatifs que je peux faire. Alors chaque image est faite pour une raison précise et elle vient alimenter. Et je me rends compte de plus en plus qu'il y a vraiment constitution un peu d'un fond d'image. C'est pour ça que j'ai un peu du mal avec la notion de série, parce que une série, elle commence et elle se clôt. À un moment donné, on arrête. Alors que là, c'est vraiment par rapport au territoire que je traverse ou au lieu dans lequel je suis, qu'il y a des situations, un bâtiment, une rencontre avec une personne, ou je veux dire qui fait que je fais des images. Et donc l'image a un sens pour elle-même, mais après vraiment pour moi elle vient et elle vit au moment où elle se met en lien avec d'autres images. Et vous avez raison de parler de récit, parce que c'est à un moment donné une manière que j'ai de travailler, et j'aime cette chose comme une chose que je vais dire qui est vraiment très bateau, mais qui est quelque chose que je trouve très juste, c'est que entre deux images, il y a une troisième image, et c'est peut-être cette chose-là qui m'intéresse beaucoup dans le monde des images. En tout cas, cette phrase est de Godard, et toujours Godard qui revient, mais quand même, c'est pas pour rien. Et du coup, tout de suite, première exposition, il y a eu des personnages, des façades et des paysages. Et petit à petit, je découvrais des choses. Je veux dire, les passants sont arrivés après, les situations sont arrivées après. Je veux dire, les arbres sont arrivés très tard. Donc ça, c'est assez drôle, comment on est dans la ville et on est toujours dans le rapport à la ville, à essayer d'associer les choses entre elles, ou en tout cas de les mettre en vis-à-vis. Et je n'avais jamais photographié d'arbres en ville. Donc 2003, ça a été un moment où j'ai commencé à me rendre compte à quel point, je veux dire, j'étais quand même très, comment on dit, dans un chemin. C'est-à-dire qu'on a toujours des dangers dans une manière de travailler, et qu'à un moment donné, dans les années 2000, je me suis rendu compte à quel point ces sans-titres, les personnages, les façades, ont commencé à être un carcan qui m'empêchait aussi d'avancer.
Les situations, voilà. Les passants.
Donc là, j'ai créé les anomalies. Alors j'ai des images qui sont des anomalies maintenant. Et je pense que petit à petit, je suis en train de lâcher ces identifications.
Qu'est-ce que les arbres, alors, seraient venus résoudre, justement ?
Les arbres, déjà les arbres, voilà, dans les arbres que j'ai pris au début, j'ai pris des arbres qui étaient en fait une façon d'échapper à des habitudes. C'est-à-dire que j'étais à Vénissieux, je faisais une commande, et j'étais dans la cité Berlier, qui est une cité ouvrière. Et bien sûr, on repense à toute la photographie allemande, la photographie objective, où on voit toutes ces maisons semblables, prises, portraits de maisons les unes derrière les autres. Et que là, j'étais face à ça, et je ne savais pas comment arriver à déjouer cette chose tout en montrant ce caractère de la similarité de toutes ces architectures dans la cité ouvrière. Et c'est les platanes qui étaient entre ces maisons et qui m'ont aidé à déjouer cette habitude, cette façon de faire une image. Et dans certains de ces arbres, il y a vraiment des personnages. Voilà. C'est là où je me suis dit, c'est quand même incroyable. C'est là aussi où je me suis dit, mais c'est vraiment, ça a commencé aussi dans ce rapport au vivant, quoi. C'est-à-dire que j'étais très, ce qui est vivant, c'est l'homme. Pour le dire vite, il y a quelque chose qui, me faisait dire que pour quelqu'un qui était né pas loin de la campagne, j'étais quand même assez, assez urbaine, et il y avait des choses que je ne voyais plus.
Alors, je voudrais peut-être revenir, Valérie Jouve, justement sur cette question des séries, alors pardon, des corpus, puisque vous préférez ce terme-là, qui s'enchaînent, hein, mais je dirais se chevauchent plutôt que s'enchaînent, en tout cas le plus souvent. Pour autant, est-ce qu'un nouveau corpus est nécessairement en dette avec l'un de ceux qui l'a précédé?
Qu'est-ce que vous entendez par en dette?
Est-ce que ça veut dire qu'il est en lien, d'une certaine façon, soit par opposition, soit par rupture, soit par prolongement, soit qu'il naisse d'une série précédente, enfin, ou d'un corpus précédent? Comment tout ça s'articule les uns aux autres? Alors, et tout ça faisant après un grand terrain de jeu à montage.
Ça n'est pas du tout, je dirais, un changement qui ferait qu'il y a une rupture et que d'un coup, je commence autre chose. Non, j'ai toujours eu un travail photographique depuis, je dirais, le milieu des années 85-86, quelque chose qui était important pour moi, en tout cas dans cette prise de cet outil. C'est un outil qui m'aide à penser le monde, à essayer de voir comment on peut réfléchir à ce qui peut se construire dans le monde ou à ce qui peut faire corps collectif, à ce qui l'empêche d'exister, à tous les possibles. Et je pense que l'image, du moment que ça n'est pas seulement un prélèvement parce que une anecdote ou quelque chose dans la rue nous plaît, mais est vraiment un outil d'accompagnement de cette pensée. Je veux dire, oui, toutes les images ont des liens les unes avec les autres. Quand je fais une image, très souvent, je pense à des choses avec lesquelles je pourrais la faire travailler ou avec lesquelles ça va faire écho ou qu'est-ce qui va venir freiner cette image ou qu'est-ce qui va venir l'accompagner. Mon fond d'image, je l'ai en tête, je le construis depuis les débuts des années 90.
Donc pas de corpus qui s'épuiserait et jamais l'idée d'un achèvement de série.
Non. Enfin, c'est pas un achèvement de série, c'est que selon les lieux où je suis et les réflexions que j'ai, les lectures que j'ai, il y a des images dont j'ai besoin. Mais je dirais aujourd'hui, effectivement, je veux dire, c'est plus des images dont j'ai besoin pour nourrir ce fond d'image, pour le nourrir dans le sens où pour l'emmener vers là où moi je suis aujourd'hui, que de finir une suite d'images et de commencer autre chose. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas séparé de ma manière de réfléchir ou d'écrire ou de d'avancer dans ce monde, quoi.
Donc qui est évidemment le montage hein, qui en somme
le montage est déjà intellectuel, enfin je veux dire c'est pas juste un effet de joliesse dans un espace, c'est vraiment c'est aussi tout ce qui il me semble donne la nature un peu physique de ce travail.
Alors on peut s'arrêter peut-être justement de façon plus précise et concrète sur l'une de ces compositions qu'on a pu voir ici même hein, juste à côté à la Bibliothèque nationale de France dans l'exposition Paysages français qui est une sorte de polyptyque hein, donc alors un montage de 2009. Donc il y a cette grande toile murale placée directement sur le mur de très grand format qui représente un mur cadré de très près hein, et puis par-dessus en léger décalage trois tirages argentiques, trois photographies de format différents. Donc on a en bas au centre, je fais des grands gestes, ça ne donnera rien à la radio mais néanmoins je fais des grands gestes. Donc en bas au centre une sorte de morceau d'architecture de façade hein, avec un petit bout de fenêtre d'ailleurs je crois, et puis en haut à gauche un bout de mur et en haut à droite, un bout de mur, et en haut à gauche, le visage d'une femme, tête renversée de trois quarts, hein, qui est cadrée serrée, sans doute à une fenêtre, sur un fond urbain qui est en contrebas. Donc pour revenir justement à cette idée de piocher dans une banque d'images hein, et puis d'en faire montage, hein, mm-hmm. pour faire récit, pour fabriquer, j'imagine, aussi un autre spectateur, et c'est aussi tenir un discours sur la photographie, et peut-être aussi sur ce qui ne suffirait pas dans la photographie.
Oui, alors au début, c'était pas lié à cette réflexion-là, mais ça m'a emmené effectivement à réfléchir autrement. Je vais préciser dans le... Mais au début, en fait, ça a été toute une série d'images que j'ai faites, une suite d'images dans le 18e arrondissement à Paris, dans le Nord, au même moment où je commençais à aller à Jérusalem et en Palestine, où se construisait ce mur. Et je photographiais, puisque c'était un quartier dans le 18e qui était complètement renouvelé. Et c'est vers Saint-Plon, et on voyait comme ça des murs magnifiques, enfin je veux dire, où vraiment, qui ont des histoires, un escalier.
Très accidenté, très.
Voilà, qui ont vraiment un rapport à une histoire, à une temporalité très particulière et à des couches. Et je consignais ces images, mais sans vraiment savoir quoi en faire, si ce n'est que je savais que je pouvais pas les montrer les unes à côté des autres. Il y avait quelque chose de tellement esthétisant, tellement beau dans la matière, dans le, que ça faisait des petits tableaux abstraits, et que c'est vraiment pas dans ma pratique de montrer une chose parce qu'elle est forte visuellement. Et du coup, je les ai gardés un moment. Parallèlement à ça, il y avait quand même un énervement que j'avais, qui était que vous faites un travail, mais vous avez aussi un public. Ce public a aussi des façons de regarder la photographie. Et on est avec un outil qui a été vraiment, comment je dirais, dans un cadre précis. On nous a sorti la chambre claire de Roland Barthes. J'ai pesté contre Roland Barthes parce que, et pas contre lui, mais contre l'utilisation de ce livre. Comment c'est devenu une espèce de livre sur la photographie, alors que c'était l'histoire, son histoire avec la photographie liée à sa mère. Donc, tous les gens ne comprenaient pas les montages, et pour eux, je faisais des images comme ça. Bon, déjà, je mettais pas de légende, alors ça, c'était un... Il y avait des choses comme ça qui énervaient vraiment les regardeurs, parce que, voilà, j'avais des gestes qui n'étaient pas compris. Et qu'à un moment donné, les murs, j'ai fait trois pièces comme ça. Je dirais que aujourd'hui, ça a amené d'autres choses, mais ces trois pièces m'ont beaucoup aidée, parce que d'une certaine manière, en une pièce, cette idée de montage, quand même, on ne pouvait pas la louper, quoi. C'était un moment affirmer cette chose que ces quatre images-là font corps ensemble, et que c'est vraiment une chose qui existe en soi.
Et c'était, mais qui sort la photographie de sa nature de surface aussi, parce qu'il y a quand même aussi un jeu de relief,
bord, hein. Et puis de relief, et puis de statue, entre un tirage collé au mur, enfin un tirage, un jet d'encre collé au mur, et des tirages photographie argentique. Je veux dire, il y a aussi comment je dirais, on sent les deux procédés qui ne travaillent pas au même endroit. Mais avant tout, moi, c'était vraiment commencer à faire des choses qui étaient vraiment un rapport au montage beaucoup plus affirmé. Et ces trois pièces donnent aujourd'hui... Alors, j'avais commencé dans une galerie qui s'appelle... une petite galerie qui s'appelle Le Bleu du Ciel à Lyon, où j'ai fait tout un accrochage entre... des tirages d'eau bleue, alors là pas du tout des bâches, mais des dos bleus papier, qui viennent rythmer rythmer et faire travailler d'autres images qui venaient se poser dessus. Donc c'est tout un jeu, effectivement, là encore, dire qui nourrissait quelque chose qui m'intéresse de fait, de ces rapports des différents plans, quoi. Donc, et à Saint-Étienne, en mai, pour l'exposition, je travaille ces choses-là aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces trois pièces-là m'ont permis, parce que à certains moments, on est à des endroits et puis on est dans des, je dirais, c'est pas des impasses, mais des choses où on sent bien que ça fige et qu'on a envie de partir ailleurs, mais on sait pas vraiment. Comment arriver à le faire, et ces compositions m'ont aidé vraiment à avoir un peu plus de légèreté, peut-être. De légèreté dans le fait de manipuler les images, puisque chaque pièce, même si elle était montée, restait une pièce dans une exposition. Là, vraiment, les images montées ensemble font corps et travaillent ensemble, et c'est devenu une pièce. Chose qui me plaît pas obligatoirement, donc par
pour
exemple
quelle raison petit...
parce que j'ai du mal à certains moments à voir les images figées. Ce qui m'intéresse beaucoup dans l'image, c'est que les images, elles sont mobiles, c'est un négatif, c'est un objet. Enfin, je m'attrape souvent avec la galerie, parce que moi, pour moi, une image, elle pourrait exister à différents formats, selon le contexte dans lequel j'en ai besoin. Elle peut être un petit format ou un plus grand, ou selon le besoin du montage spécifique dans un espace spécifique. Et ce qui est très difficile à faire quand on travaille avec une galerie, par exemple, parce qu'ils me disent, mais pour nous, c'est ingérable, ton histoire, quoi. Donc, je me tiens un peu à des formats, mais alors avec les compositions, j'ai pu découvrir aussi une manière de parce que, je veux dire, une bâche, je peux la tirer très rapidement, la faire en petit, en grand, elle est collée au mur, de toute façon, je veux dire, on la décolle du mur, on la jette à la poubelle, donc on n'est plus dans l'objet un peu... l'objet œuvre d'art, quoi, qui est pour moi une dimension avec la photographie qui est pas si simple, quoi. Pour moi, la photographie n'est pas seulement une œuvre d'art, et du coup, ben, ça pose des questions par rapport à la place de la photographie aujourd'hui dans le monde de l'art, et comment on montre la photographie et comment on utilise la photographie.
Est-ce que vous avez le sentiment qu'on peut, en tout cas en ce qui vous concerne, qu'il est possible de progresser ? Est-ce que c'est une notion qui vous intéresse ?
Je pense que la progression, je veux dire, elle est de fait. On progresse, je veux dire, dans la vie déjà. Mais je dirais que plus ça va, plus je me rends compte à quel point ce qui m'intéresse, c'est de chercher avant toute chose. Et que... je suis capable de lâcher pas mal de choses pour continuer la recherche. Voilà. Donc ça m'intéresse vraiment. Et de savoir comment arriver à faire évoluer aussi notre rapport aux images, parce qu'on est quand même dans un monde où on a intérêt à se pencher quand même sur la relation que... Je parle pas des gens qui sont dans un rapport à la photographie, mais aux gens qui mangent des images à longueur de journée, et que bah voilà, nos images aujourd'hui, elles se doivent quand même d'un peu de responsabilité par rapport à qu'est-ce qu'une image aujourd'hui, quoi. Donc ça, c'est une question qui m'importe beaucoup, et comment justement déjouer la photographie, c'est peut-être aussi arriver à donner à l'autre des outils pour voir à quel point une photographie est une construction avant tout mental, avant d'être une réalité. Je ne veux pas dire vérité, mais parce qu'on fait souvent la confusion. Je veux dire, enfin, les images pourraient être vues, enfin, certaines images sont vues comme des vérités. C'est là bien là le problème. Donc même dans ces gymnastiques dont je parlais, et puis il y a souvent des petits détails dans une image qui déjouent la véracité de l'image, quoi. Ça n'est pas un moment, un lieu, un endroit où, enfin, je veux dire, c'est quelqu'un qui voit une chose à un moment donné dans un lieu, mais c'est avant tout quelqu'un qui l'a intériorisé intellectuellement pour arriver à le reconstruire et pour le donner à l'autre, quoi. Mais je sais plus.
C'était la masterclass de Valérie Jouve avec Manou Farine. Coordination, Arnaud Laporte. Attaché de production, Chouchane Djergaillan.